débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Autorisation de bâtir, quelle est l'importance de ces documents? On observe en RDC, surtout dans des grands centres urbains, la construction de maisons et immeubles. Et tous ces bâtiments sont construits dans les anciens et même de nouveaux quartiers. Et d'après les architectes, plusieurs propriétaires n'ont pas l'autorisation de bâtir. Avec notre invité, Dishon Gamdo, on va découvrir l'importance de ces documents. Nous rappelons le numéro de contact pour les personnes qui veulent bien intervenir. Appelez au 080. 1-890-63-79. Disho Ngandou, rebonjour.
Rebonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Disho Ngandou, autorisation de bâtir. Pourquoi faut-il avoir ces documents avant de commencer à bâtir sa maison ou son immeuble?
Ok, l'autorisation de bâtir, en fait, je suis en amont, c'est d'abord une exigence de la part de l'État. Et cela est des mises dans tous les pays à travers le monde, parce que vous savez très bien que l'État est propriétaire des sols et des sous-sols. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre d'ériger quelque chose sur son sol sans pour autant qu'il en soit informé, ou plutôt qu'il donne l'aval. Et maintenant, en aval, pour ne pas faire la tautologie, ça revêt une importance aussi pour la personne qui se lance dans cette construction. Cela suppose que vous êtes censé être connu par l'État dans ce que vous êtes en train de faire et que par conséquent, votre parcelle même est connue de par son existence par l'État. Ça vous épargnerait au futur des situations désastreuses ou désagréables qu'on connaît lorsque on se permet de construire ou plutôt d'ériger une construction sur des zones qu'on appelle des non-édificandis, des zones où on ne peut pas construire. Donc vous comprenez que ça revêt une importance double, que ça soit pour la personne qui construit, que ça soit aussi pour l'État qui cherche à préserver les constructions et l'assainissement de l'environnement.
Et c'est un document qu'il faut retirer auprès de quelle institution de l'État?
Il y a des instances, ou plutôt des services de l'État qui sont habilités ou qui ont compétence de délivrer ces documents. Cela dépend d'un pays à un autre. Ici, chez nous, il y a des différents échelons, selon l'importance de l'ouvrage. Il y a des autorisations qu'on peut obtenir directement au niveau de l'hôtel de ville. Il y a des autorisations qu'on obtient au niveau de gouvernement central, des autorisations qu'on obtient au niveau des ministères de TPIR. Bref, ce sont les institutions de l'État, lorsqu'on va vers elles, qui vous détermine ou plutôt qui vous oriente de l'endroit où vous pouvez obtenir votre autorisation de bâtir selon la taille de votre construction.
Alors donc c'est un document qui pose pas trop il n'y a pas trop de procédures pour l'obtenir, hein?
Je peux dire qu'il n'y a pas trop de procédures parce que l'arrêté ministériel qui a été publié tout récemment a encore simplifié les choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes devant ces institutions, on cherche la démarche que l'institution établit va dans le sens double. Cherchez d'abord à savoir si vous êtes réellement les propriétaires de l'endroit où vous voulez construire. Ça, c'est des 1. Donc, on vous demande des documents administratifs qui prouvent que vous êtes les propriétaires, donc des actes de propriété. Et dès une fois que vous avez prouvé que vous êtes réellement les propriétaires, vous devez aussi démontrer que cette construction est avalisée par les experts de l'art de bâtir. Il y a experts de l'art de bâtir, je vois l'architecte, je vois l'ingénieur, je vois toutes les personnes qui sont impliquées directement dans l'art de construire. Alors, dès lors que toutes les deux conditions sont réunies en ce moment-là, vous pouvez obtenir normalement votre autorisation de bâtir. Une reconnaissance de la part de l'État vous permettant d'ériger la construction selon les normes ou plutôt selon les plans que vous avez déposés sur les bureaux de ces institutions-là. Généralement, permettez-moi d'aller plus loin. Lorsque il y a des gens qui font un peu les plus malins, ils viennent auprès de l'État pour dire que non, je viens solliciter l'autorisation de bâtir pour construire une maison, par exemple, de telle taille. R plus 1, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus un étage. Vous obtenez l'autorisation de bâtir, vous faites les malins sur chantier, vous commencez à faire 4-5 niveaux. Vous pensez avoir fait les malins, mais en fait, c'est une situation qui peut se retourner contre vous. Parce que ces autorisations-là, lorsqu'on les demande, ça s'accompagne de beaucoup d'autres documents, entre autres les études de sol. C'est-à-dire que les différents essais effectués par des laboratoires appropriés démontrant que sur cet endroit-là, ou plutôt par rapport au volume de la construction, vous ne pouvez pas atteindre tel niveau, par exemple. Mais lorsque vous allez faire les malins, vous allez plus loin, c'est une situation qui peut être agréable pour vous lorsque la maison tiendra, tant mieux pour vous. Mais au cas contraire, elle peut s'écrouler. Vous connaissez les cas de maisons qui se sont écroulées sur la ville pour cette raison-là.
Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment important pour toutes ces personnes qui veulent bien construire, qui ont des moyens, de chercher à avoir ces documents et surtout de ne pas faire le malin, parce que j'imagine bien il y a des pénalités lorsque vous tombez sous les coups d'une infraction, c'est-à-dire lorsque quelque chose arrivait à se produire. Prenons le cas que vous êtes en train de construire sans cette autorisation et qu'il arrivait à un accident, il y a un maçon qui je ne sais pas moi a été électrocuté ou bien qui est tombé du haut du bâtiment. Il y a des je crois que ça va poser problème à Dichengwan.
Oui, là nous sommes dans un autre contexte, nous sommes dans le contexte des assurances.
Oui.
Ouais, c'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans une construction, il y a des assurances tout risque qu'on doit obtenir auprès de l'assureur. Nous avons un assureur national, la SONAS, et il y a aussi des assurances dues aux tiers. Ça, c'est une autre dimension de la chose. Mais l'autorisation de bâtir, c'est une exigence, c'est une obligation. Donc, quiconque voudrait se lancer dans la construction doit au préalable obtenir l'autorisation de bâtir pour qu'il soit sûr que je suis sur mon territoire, je suis sur ma parcelle reconnue par l'État et ce que je fais est dans les normes. Alors, lorsqu'on n'est pas là dans les normes, à tout moment on peut être sanctionné par les services de l'État, à tout moment on peut arrêter les travaux lorsqu'on n'a pas ces documents-là.
Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes qui construisent ne se donnent pas la peine de chercher les documents? Est-ce qu'il y a des tracasseries par rapport à cela? Qu'est-ce qui fait que, en tout cas, la plupart des personnes qui construisent, ils n'ont pas ces documents?
Oui, ça relève d'une certaine culture lointaine plutôt. Au départ, pour obtenir l'autorisation de bâtir, c'était vraiment une démarche à tout casser. Et vous pouvez vous lancer, vous faites 5-6 mois sans pour autant obtenir cette autorisation de bâtir là. Vous fournissez autant de documents jusqu'au point de vous décourager. Cela a fait que, vous savez, lorsque vous avez un budget pour construire et que vous avez un délai, la construction c'est un projet. Là, je suppose qu'il faut avoir un délai, il faut avoir un coût et puis il faut avoir la qualité. Mais plus le temps passe, plus vous n'avez pas les documents appropriés pour pouvoir vous lancer, vous vous dites, écoutez, je suis fatigué, je me lance à volo moi-même. Donc, cela a découragé beaucoup de gens à pouvoir aller auprès des institutions de l'État pour pouvoir obtenir l'autorisation de bâtir. Et beaucoup s'étaient lancés à volo de leur propre gré en train de faire ces réalisations-là. Mais tout récemment, on a constaté beaucoup d'avancées au niveau du ministère de TPIR, où on a allégé beaucoup de démarches pour permettre aux gens de trouver vite les autorisations de bâtir. Mais malgré tout cela, je crois que je ne prends pas les institutions des bons côtés. Lorsqu'on dit que non, c'est dans 30 jours que vous avez l'autorisation de bâtir, vous ne l'avez toujours pas dans 30 jours. Oh, ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça, c'est aussi un signal d'alarme que je lance dans la direction des institutions de l'État pour pouvoir faire en sorte que lorsque quelqu'un a réuni tous les documents pour pouvoir obtenir son autorisation, qu'il l'obtienne dans les délais requis des 30 jours-là. Mais nous constatons que ça passe, ça fait 2-3 mois, on commence à vous dire qu'il y a des commissions qui siègent par-ci, par-là, et finalement, ça risque de faire en sorte que les gens commencent encore à se décourager et se livrent dans des constructions par eux-mêmes. Vous savez, Kinshasa, c'est une mégapole. Donc, soyons sincères, l'État, ou plutôt les institutions de l'État, n'ont pas la maîtrise de tous les coins et les recoins de la ville. Il y a des constructions qui se font dans des coins tels que il n'y a aucun inspecteur, il n'y a aucun contrôleur qui passe pour savoir qu'ici, il y a une construction qui exige l'autorisation de bâtir. Et on construit, on termine, on habite. Pourquoi? Parce que la personne peut bien avoir la bonne foi de vouloir obtenir ces documents, mais lorsque vous lui dites que c'est dans 30 jours que vous allez l'obtenir, et elle se retrouve en train d'attendre pendant 4-5 mois, elle va se dire, écoutez, moi je m'engage, advienne que pourra. Donc l'État doit faciliter vraiment davantage encore la tâche aux potentiels constructeurs pour qu'ils obtiennent ces documents avant toute chose et le plus vite possible. Ainsi, cette culture-là va se répandre. Chacun pourra aussi facilement l'obtenir et affluer les caisses de l'État dans ce sens-là.
Voilà, si vous venez de vous rejoindre nous sur la fréquence de la paix, vous êtes en train de suivre le magazine Okapi Service, votre émission de la vie au quotidien. Dans sa deuxième partie, on est en train de parler de l'autorisation des bâtir. Quelle est l'importance de ces documents? Vous voulez intervenir? Appelez au 081 890 63 94 ou bien faites un SMS au 081 711 5001. Nous disons merci à toutes les personnes qui ont posé des questions sur notre page Facebook. On va les découvrir tout à l'heure avec notre invité.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
On va découvrir ce que nous écrit François Kanyama. Il est ingénieur géomètre. Il dit il y a des constructions qui se font du jour au lendemain, non seulement ici à Kinshasa, mais partout dans le pays. Quelles sont les dispositions, mesures préventives prises par le ministère d'urbanisme et habitat pour les personnes qui ne les consultent pas avant de construire des chongandou? Peut-être vous avez un commentaire par rapport à cette préoccupation de François Kanyama, qui est ingénieur géomètre, qui demande est-ce qu'il y a des dispositions, peut-être vous êtes au courant, ou des mesures préventives prises au niveau du ministère pour des personnes qui ne consultent pas avant de construire?
Bon, je donnerai des fragments de réponse étant donné que je ne fais pas partie des institutions de l'État. J'interviens ici en tant qu'architecte d'exercice libéral.
Oui.
Il est vrai que des mesures préventives qui puissent exister vont dans le sens de sanctionner. Mais en fait, si la sanction n'est pas derrière une vulgarisation et n'a vraiment pas aucun effet positif, avant de pouvoir sanctionner, il faut vulgariser, il faut sensibiliser. Il faut faire voir aux gens l'importance de ces documents, l'autorisation de bâtir. Ainsi, chacun, devant sa conscience, peut, sans beaucoup de contraintes, s'engager à pouvoir l'obtenir. Mais vous remarquez qu'il y a vraiment pratiquement l'absence de sensibilisation. La population qui construit n'est pas forcément une population intellectuelle. Tout le monde est appelé à construire. Tout le monde peut du jour au lendemain avoir des moyens et se lancer dans la construction. Mais si on n'a pas les ABC de la démarche, il est difficile de pouvoir savoir par où commencer. L'État doit vulgariser vraiment les concepts. L'État doit sensibiliser les citoyens sur les biens fondés de l'autorisation de bâtir. Si cela n'est pas fait, donc toutes les sanctions qui peuvent venir n'auront vraiment pas beaucoup d'impact. Ça sera des punitions et puis après punition, on va relancer la démarche comme si rien n'était.
Ben, il y a également cette réaction de Linon qui nous écrit sur notre page Facebook. Il dit « Les conséquences sont multiples. Nous avons entre autres des inondations, des effondrements, des érosions. Il n'y a pas d'harmonie en voyant les maisons puisque le désordre est bien organisé. Nous demandons pourquoi les citoyens arrivent jusqu'à ces niveaux-là de construire sans autorisation comme si l'État n'existait pas. » Deschong a un commentaire.
Il est vrai, nous constatons tous des conséquences. Vous remarquez, là, je suis en train de passer l'émission sous la pluie. Vous pouvez vous imaginer, vous et moi, nous avons constaté les inondations qu'on constate ça et là. Il y a des gens qui se sont permis de construire sur des collecteurs. C'est parce que ils n'ont pas eu l'information nécessaire, ou bien ils l'ont fait constatant qu'il y a l'absence de l'État. Que ça soit pour une raison ou pour une autre, les conséquences sont multiples. Pour les éviter, il faut, je reviens en tout cas avec beaucoup d'harcèlement, il faut sensibiliser davantage. Il faut vraiment faire voir aux gens l'importance de cet acte qu'on est en train de poser, construire. Parce que si la ville n'est pas bien assainie à cause des désagréments dits aux occupations anarchiques. Cela suppose que dans des situations de pluie comme l'atmosphère actuelle que nous avons, il y a très peu de gens qui vont sortir. Parce que quelque part, on ne sait pas passer, il y a une érosion, il y a un ravin qui passe, dévié par une construction qui a empêché un déroulement normal, d'écoulement des eaux. Il y a eu ceci, cela par exemple. Vous savez, dans les plans d'urbanisation des villes, il y a des régions où on ne peut pas construire. Je prends par exemple des quartiers à côté des aéroports. Lorsque l'avion atterrit, ou plutôt rate un atterrissage, il va tout droit dans la forêt, ou plutôt il dépasse les limites de l'aéroport. Et s'il y a un village, ou plutôt des quartiers tout autour, imaginez-vous les conséquences. Nous avons encore dans nos mémoires les catastrophes des types K. C'est un avion qui a raté l'atterrissage et qui s'est déversé dans un marché des circonstances. Aujourd'hui, nous avons des blessés, nous avons des orphelins, nous avons des morts comptés par milliers liés à ces catastrophes-là. Mais remarquez qu'au même endroit, il y a encore des activités qui ont repris. Et pourtant, en fait, un marché, c'est aussi une construction. Si l'endroit n'est pas approprié pour ne pas construire un marché, il ne faut pas le faire. Mais lorsqu'on le fait et que les conséquences arrivent, ça laisse des désagréments dans la société. Et ce sont des souvenirs très atroces qui laissent certaines familles malheureuses jusqu'à la fin de leurs existences parce qu'on a perdu un être cher, parce que on avait toute la famille qui passait par là au moment des catastrophes. Donc, on ne sait pas les ressentir sur l'atmosphère continentale, mais dans la dimension la plus petite, dans les quartiers, dans la famille, où le malheur est arrivé, je crois que ce sont des douleurs qu'on ne sait pas facilement penser, même avec les nombres d'années. Donc, l'État a une responsabilité, quelque part, là, de pouvoir vulgariser davantage les concepts pour que la ville à bâtir puisse être agréable, puisse être décente, puisse être bien assainie et qu'elle fasse une ville où on peut mieux vivre et beau vivre.
Voilà, Dishangan, on va prendre des auditeurs en ligne hein, qui aimeraient bien, qui veulent intervenir par rapport à ce sujet sur l'importance d'avoir ce document, l'autorisation de bâtir avant de commencer à construire sa maison ou son immeuble. Nous avons Soupinembo qui nous appelle de Kalima, dans les Maniema, et Minaku qui est ici en province orientale. Soupinembo, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité, bonjour aux auditeurs de la radio Capi, surtout à l'équipe de Capi Service. Je voudrais demander à notre invité si par exemple donc vous êtes dans une avenue, est-ce qu'il est autorisé d'avoir dans une avenue combien de maisons, parce que on sait vraiment dans une avenue il y a beaucoup de maisons, il n'y a pas même un passage de passer quelqu'un. Chacun construit selon sa façon, ce qu'il veut, même si vous demandez le passage, il dit non, je veux construire comme je veux, c'est ma parcelle. Et pour terminer, j'ajoute en disant que dans une maison, dans un ménage, on peut avoir combien de personnes, parce que il y a des parcelles que les gens sont nombreux et il y a des maladies contagieuses et des morts, tout ça. Tout cela, je voulais avoir des détails auprès de notre invité. Voilà, Marcel.
Merci, Soupi Niembo, d'avoir appelé du Kalima dans le Maniema. Aimé Minaku, vous êtes en Issiro, en province orientale. Bonjour, Aimé.
Bonjour, Marcel. Bonjour à tous.
Non, vous écoutez, Aimé.
J'ai deux questions. D'abord, j'aime savoir si quelles sont les sortes de maisons qu'il faut avoir d'abord l'autorisation avant la construction, des petites ou des grandes maisons. Oui, c'est ça. Et enfin, j'aime savoir ces documents. S'il est livré, il peut avoir la validité de combien de temps, ou encore si on achète ces documents, il peut servir pour la première construction, si quelqu'un peut encore construire, il peut acheter pour la deuxième fois, ou le même premier document peut encore lui servir. Voilà mes deux préoccupations, je vous remercie.
Merci à vous aussi, Aimé Minaku, d'avoir appelé Dizio en province orientale. Dishongando, on commence avec Soupinembo qui a appelé le Kalima dans le Maniema. Vous avez suivi sa préoccupation. Lui, il parle même pas des quartiers, mais plutôt à des avenues de rue. Il dit, est-ce qu'il y a de maisons, un nombre limité de maisons qu'on peut construire sur une avenue ou bien c'est puis le plan d'urbanisation, c'est par rapport au quartier.
Et merci beaucoup Tati. Je voudrais plutôt faire l'inverse, commencer par répondre aux questions d'Aimé qui me semblent beaucoup plus pratiques avant d'atteindre celle de Niembo de Maniema.
C'est bon, allez-y.
Mademoiselle Aimé demande si les autorisations de bâtir sont appropriées à des types de construction. Non, qu'il s'agisse d'un studio ou d'une cathédrale, on a l'obligation d'obtenir l'autorisation de bâtir avant de se lancer dans cette construction. Donc, je souligne qu'il s'agisse d'un studio, c'est-à-dire une petite maison de 2 mètres x 2 mètres ou d'une grande labyrinthe, il faut avoir l'autorisation de bâtir. Quant à la validité de l'autorisation de bâtir, elle est de 36 mois. C'est-à-dire que lorsque vous l'obtenez, vous êtes dans l'obligation de finir votre construction dans le délai de 36 mois. Mais si pendant cette période, vous n'avez pas fini avec votre construction, l'autorisation devient caduque. Vous êtes obligé de reprendre la démarche pour pouvoir obtenir une autre autorisation devant vous couvrir dans la poursuite de la construction.
Donc dans le délai de 36 mois, c'est-à-dire 3 ans.
3 ans, ok, exactement.
Ah, d'accord. Mais Emma a également posé une autre question de savoir si le même document peut servir aussi pour d'autres constructions.
Non, il y a une autorisation pour une construction. Parce que lorsqu'on donne l'autorisation, on a analysé les documents administratifs et on a analysé les documents techniques. Les documents techniques, c'est-à-dire le plan que l'architecte ou l'ingénieur a livré pour voir si c'est conforme aux exigences urbanistiques, si c'est conforme aux normes. Et les documents administratifs, c'est-à-dire les titres de propriété que les clients présentent afin de certifier auprès de l'État que ça, c'est bel et bien ma parcelle. Alors, vous comprenez que dans cette démarche, on ne peut pas avoir une autorisation de bâtir pour autant de constructions. À chaque construction correspond une autorisation de bâtir.
Alors, avant, il y a des autres auditeurs en ligne, Julien, Blaise, qui sont ici à Kinshasa, avant de les avoir rapidement au bout du fil. Et qu'est-ce que vous dites à Soupi Niembo?
Bon, Niembo, je voudrais savoir combien de parcelles il y a sur une avenue. Non, c'est illimité.
Oui.
Lorsque le géomètre, ou plutôt l'urbaniste, trace l'architecture d'une ville, on détermine plutôt les quartiers. Et il y a ce qu'on appelle les plans d'occupation des sols, POS. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui sont censés être habités par des bourgeois. Là, ce sont des très grandes parcelles. Il y a des quartiers destinés aux citoyens moyens. Il y a des quartiers destinés aux citoyens appartenant à la troisième classe catégorie de la société. Il y a par exemple les maisons des bandales, qu'on appelle des habitations à loyer modéré. HLM, ce sont des types de maisons qu'on constate aussi à Lemba, Yolo, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le nombre de parcelles sur une avenue est fonction de la taille des constructions qui sont destinées à être érigées dans ces quartiers-là. Sur des terrains à relief, des terrains accidentés, généralement destinés aux bourgeois, vous trouverez par exemple qu'il y a des parcelles qui prennent 100 mètres de long et 50 mètres de large. Alors là, c'est pas pour des citoyens moyens, pour des citoyens de la troisième catégorie sociale d'aller s'aventurer pour construire là-bas, parce que d'abord, ça exige beaucoup de moyens pour se lancer sur ce genre de construction, et aussi ça demande en permanence la présence des experts de l'art de bâtir pour que toute construction qui va s'y faire puisse être une réussite. Donc il n'y a pas un nombre déterminé de parcelles sur une avenue. Mais quant à la taille moyenne des ménages, de personnes par ménage, les statistiques fiables dans notre pays démontrent que pour bien vivre, la taille moyenne du Congolais varie entre 6 à 8 personnes. Vous pouvez le remarquer tout autour de vous. Hein. Lorsqu'on est bien au-delà des 8 personnes, vous comprendrez qu'il y aura généralement des problèmes. Donc la taille moyenne pour bien vivre décemment, c'est entre 6 à 8 personnes par ménage.
Voilà. Deschongan, nous va prendre les derniers auditeurs qui nous appellent de Kinshasa, Julien Blaise. On y va avec Julien. Et Julien, bonjour. Bonjour, Julien.
Allô, c'est Blaise.
Ah, Blaise, allez-y, Blaise. Quelle est votre question?
Ok, merci. Je suis en direct, là?
En direct, oui.
D'accord, merci. En fait, je vais intervenir à deux niveaux. Hein. Je suis d'abord très content que la radio Capi ait animé cette émission. C'est bien, ça m'a édifié dans beaucoup de choses parce que je suis propriétaire quelque part là. Et bon, j'ai finalement compris un peu ces fameux documents de attestation, autorisation de bâtir. Bon, en fait, je vais à l'essentiel en disant ceci. Ben, premièrement, par rapport au droit de, comment on dit, expropriation pour cause d'utilité publique, ok?
Oui.
Allô?
Oui, oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, expropriation pour cause d'utilité publique. Nous voyons les constructions qui font l'État ici en agrandissant soit les routes, soit d'autres édifices. Mais l'indemnisation n'est pas adéquate par rapport à quelqu'un qui a obtenu en bonne et due forme ces documents de l'administration, entre autres celui dont on parle là. Si monsieur peut s'apesantir là-dessus, parce que quelqu'un qui a construit un immeuble, mais il voit s'indemniser quelque chose de dérisoire, tout simplement parce que c'est l'État. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Oh bah, alors, l'invité est en train de vous suivre, il va réagir, allez-y.
Et deuxièmement, là je suis directement concerné, parce que je voyais des gens de, parce que là il s'agit de communes de Selemba, il faut les citer, les gens de Selemba vont venir à ma parcelle là où je suis en train de construire, c'est bien parce que ce sont les représentants de l'État, ils ont droit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des gens venir à tour de rôle, donner ceci parce que on remet l'argent, je me réserve le droit de discuter les montants, croyant qu'on remet l'argent pour une cause utile, on remet un montant X, et à un moment, c'est les mêmes gens qui vous arrivent avec un autre document sans cachet ou quoi, que non, voilà, ce n'est plus ça, c'est un montant 5-10 fois plus que ça. Mais dans tout ça, vous comprenez que c'est une tracasserie et démoralisé, comme vous l'avez allé dire, monsieur le journaliste, par moment, que non, voilà, il y a quand même des agents qui rendent mauvais service à l'État en faisant des choses qui ne sont pas conformes. Et en ce moment-là, ça décourage les bonnes volontés qui sont là pour honorer l'autorité de l'État et aussi construire. Quand vous voyez des gens pareils faire dans telle maison, et dès qu'ils ont perçu l'argent, on ne les voit plus. Et quelques temps après, vous avez le sentiment que non, vous devez à l'État, mais vous n'avez jamais un document que vous pouvez brandir, comme quoi, voilà, j'ai payé. Donc, ce sont des cas, pour moi, je conseillerais que, dans de telles émissions, vous ayez le temps de vulgariser pour que, et les poignets de la population que nous sommes, et les agents de l'État, soyons quand même sur la même longueur d'onde. Voilà un peu, je ne sais pas, monopoliser, messieurs.
Merci,
voilà
Blaise. Oui. Merci, Blaise, d'avoir appelé de Kinshasa. Dessiongadou, comment réagissez-vous?
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Blaise, pour l'intérêt que vous accordez à l'émission. En fait, à mon humble avis, qu'il s'agisse de Tati au studio et qu'il s'agisse de moi, j'ai eu à me présenter dès le départ. Je ne fais pas partie des institutions de l'État. Je suis dans l'exercice libéral, mais curieux et averti. C'est pour cela que je me permets de donner ces informations. En fait, lorsque vous voyez un agent venir chez vous pour pouvoir obtenir de l'argent afin de vous promettre l'obtention d'une autorisation de bâtir, vous devez tout de même commencer par l'indexer. Je me rappelle, Madame la secrétaire d'État à l'urbanisme, la secrétaire d'État à l'urbanisme est passée sur ses ondes de Okapi pour bien expliquer les démarches qu'il faudra entreprendre afin d'obtenir l'autorisation de bâtir. Une fois que vous êtes dans la démarche, les frais sont payés à la banque. Il y a des guichets de la banque qui sont ouverts pour pouvoir percevoir les frais d'autorisation de bâtir. S'il y a d'autres frais divers qui sont payés, ça c'est au niveau par exemple de juridictions compétentes. Mais une fois que vous avez payé votre argent à la banque, vous avez les récépissés et que vous poursuivez la démarche pour pouvoir payer les autres frais divers et obtenir les documents d'apurement, personne ne pourra venir chez vous pour vous intimider ou pour vous déstabiliser moralement dans le sens que payer ceci ou cela. Vous savez ce qui dérange aussi, c'est quoi? C'est l'ignorance. Vous savez, l'ignorance est un très grand péché. Lorsque quelqu'un vient chez vous pour vous dire que non, je suis venu pour l'autorisation de bâtir, et que vous commencez à lui faire voir que non, voilà, on ne l'obtient pas comme ça, on l'obtient comme ceci, comme cela, je vous dis très bien que demain, il ne viendra pas chez vous. Mais lorsqu'il a en face de lui une personne qui se fait tout petit, qui commence à l'appeler révérend, qui commence à lui donner tous les qualificatifs, écoutez, là, vous le mettez en prince, et puis il se permet de venir vous rançonner. Donc, il faut retenir, M. Blaise, que les autorisations se payent au guichet de la banque. Et s'il y a des frais divers pour le suivi, contrôle, c'est au niveau des institutions. Et vous êtes censé obtenir un document une fois que vous avez payé votre autorisation de bâtir. Par rapport à la démarche d'expropriation pour cause d'utilité publique, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y a des gens qui soient sous-payés. Par idéal, comment se fait la démarche? Lorsque pour cause d'utilité publique, on veut exproprier tout un quartier, je suppose, pour besoin de construction d'un stade ou pour besoin de construction ou d'élargissement d'une route, on fait le statistique, c'est-à-dire que on fait les bilans, ou plutôt l'expertise immobilière pour connaître la valeur la plus haute ou plutôt la valeur la plus supérieure de la bâtisse dans ce lotissement-là. Et à cette valeur-là, on associe la valeur la moins-disante de la bâtisse dans cet environnement-là. On procède à la moyenne, et c'est cette moyenne-là qu'on paye à toute personne dont la valeur immobilière est en deçà de la plus haute. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On est dans un quartier pour une démarche pareille. On trouve que la villa la plus importante a coûté 50 000 dollars. Et la bâtisse la moins chère a coûté 1 000 dollars. C'est-à-dire qu'entre 50 000 dollars et 1 000 dollars, il y a des constructions dont les valeurs sont intermédiaires.
Oui.
Lorsqu'on fait la moyenne, on est à 51 000 dollars, on divise par D, ça vous fait 25,5 000 dollars. Ces 25,5 000 dollars, on donnera à la personne dont la bâtisse est de 1 000 dollars jusqu'à ce montant-là de 25 000. Mais toutes les personnes dont les valeurs immobilières sont au-delà de 25 000 reçoivent la valeur la plus importante, donc de 50 000 dollars. Alors, si généralement il y a des lésés de la société, vous comprenez dans quel embrouille nous vivons parfois, lorsque l'argent sort de la banque avant d'atteindre le destinataire, allez-y comprendre
voilà.
Par combien de personnes et combien de ponctions s'effectuent là-dessus. Mais si vous connaissez votre droit, on ne peut pas amputer un seul dollar sur ce qu'on vous doit.
Voilà, merci à Dishonganova s'arrêter par là. Nous rappelons que vous êtes architecte, et puis avec vous on a parlé de l'autorisation de bâtir, quelle est l'importance de ces documents. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout aux questions et préoccupations des auditeurs. On vous retrouve à une prochaine occasion.
Merci beaucoup, M. Tati, au revoir.